Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et ce soir, on refait le monde avec Isabelle Saporta, notre chroniqueuse maison RTL. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Avec Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Bonsoir.
Bonsoir,
Yves.
Bonsoir à tous.
Olivier Ravanello est sur ma droite. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et juste à ses côtés, Antonin André, rédacteur en chef à LCI. Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on réagisse à l'actualité la plus récente. On l'a appris un petit peu avant 18h tout à l'heure. Donc finalement, pour dresser le bilan et les annonces du grand débat national, Emmanuel Macron s'adressera aux Français via une conférence de presse, Yves Tréhard, on est d'accord, ce sera jeudi prochain dans une salle de l'Élysée,
18h.
Ouais. On est passé d'une allocution à une conférence de presse.
Bah, il fallait qu'il trouve un nouveau moyen de capter l'attention des Français. Il devait d'abord faire une intervention télévisée très solennelle, accompagnée d'une conférence de presse. Bah, là, ça sera une conférence de presse. Je ne vois pas comment il pouvait faire autrement. Enfin, si, il aurait pu faire autrement. Il aurait pu séquencer, je dirais, son intervention en réservant une partie de son intervention plus fiscale et puis après une autre partie plus sociale. Si, si, parce qu'à mon avis, il ne s'en sortira pas par une seule intervention. Il ne peut justement répondre aux Français que s'il est dans le temps long, si son projet est un projet de long terme, et pour que ce projet soit entretenu, même artificiellement sur le long terme, il aurait pu prendre la parole, je ne sais pas, une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, justement pour
répondre aux feuilletons.
Non, mais pourquoi pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc il y a la méthode. Après, il y a le fond. Le problème, c'est que le fond, vous l'avez vu, et RTL s'en est fait l'écho comme tout le monde, eh bien, il y a eu des fuites importantes, puisqu'on sait quasi tout. Alors, il va falloir qu'il trouve deux choses. Un enrobage de ces pour les mettre en perspective, ces décisions qui m'apparaissent jusqu'à présent comme un catalogue sans grande saveur et sans grande originalité, donc une perspective pour montrer que eh bien il a compris ce que les Français lui disaient. Et puis deuxièmement, il faut peut-être qu'il y ait des nouveautés par rapport à ce qui a déjà été et ce qui circule déjà dans la presse, parce que sincèrement, si je devais mettre une note à ce que j'ai lu, écouté ou entendu depuis quelques jours, je mettrais une note sous la moyenne qui me paraît très très loin de ce que les Français ont pu dire pendant un débat. Rendez-vous compte qu'on a fait 3 mois de débat, ce qui est une singularité et une première dans une grande démocratie occidentale.
Olivier Ravanello.
Je suis assez dubitatif et inquiet sur la forme que va prendre ce rendu et cette expression présidentielle. Je trouve qu'on a souffert tous durant ces mois de crise de gilets jaunes, d'une grande confusion entre les revendications, arriver à comprendre ce que voulaient les gilets jaunes au fil des mois, et ça a évolué, une grande confusion dans la prise de parole de l'exécutif, notamment dans les premiers temps avec des ministres qui s'exprimaient, et même le président qui s'exprimait de manière assez maladroite. Et puis à un moment donné, il y a eu une reprise en main de tout ça, avec les interventions d'Emmanuel Macron dans des débats au contact avec les gens, et on a eu le sentiment que les choses revenaient un peu plus en ligne. Et on ne peut pas, de mon point de vue, sortir de cette séquence, encore une fois, où tout a été remis sur la table, y compris même le système institutionnel, et où, pour certains qui vont encore manifester samedi, il faudrait ne plus avoir une démocratie et inventer encore autre chose. Donc on est allé très loin dans la remise en cause. On a besoin de sortir avec un discours qui soit extrêmement clair, extrêmement structuré, et je ne crois pas qu'une conférence de presse où toute la presse va être là va le permettre, parce que tous les gens qui vont être dans la salle sont des gens qui ont suivi les dossiers. Vous allez avoir les spécialistes de l'écho, les spécialistes de la politique partisane, les uns et les autres, qui vont vouloir en fait aller au bout d'une réflexion ou d'une question. Ça va être un exercice à regarder, où on va ressortir en n'ayant pas du tout les idées claires. Peut-être que quelque chose de plus traditionnel, avec 3 ou 4 journalistes, une longue émission séquencée par thématique pour expliquer quelles allaient être les décisions et les orientations politiques prises, aurait été, de mon point de vue, plus clair, plus pédagogique et au final plus efficace.
Antonin André, il se met en danger dans cet exercice-là ou pas ?
Il se met pas en danger parce qu'Emmanuel Macron, d'abord, il aime prendre des risques. Et donc, typiquement, ce genre de challenge, il les relève plutôt avec aisance. Donc, je ne suis pas tellement inquiet. Je suis assez d'accord avec mes confrères. Alors, ceci dit, il y a encore une possibilité, c'est qu'il fasse une grande interview dans la presse régionale, la veille, ou l'avant-veille, pour saturer un peu l'espace et surtout pouvoir s'exprimer et éventuellement avoir des mesures nouvelles sur lesquelles pour les annoncer aux Français. Parce que c'est vrai qu'une conférence de presse à 18h,
avec des journalistes,
c'est-à-dire qu'il s'adresse à des journalistes, les Français à 18h ne sont pas forcément devant leur écran de télévision. Ah, donc oui. c'est pas tellement... Et c'est vrai que ce qui est surprenant, je trouve, c'est que pour sortir d'un grand débat qui a été quand même très spectaculaire, où il s'est mis en scène, où il a soigné sa mise en scène, on revient là à un mode de communication qui est presque suranné, qui est un peu classique, qui est presque dépassé. Et je pense que c'est dommage d'avoir fait tout ce grand débat pour en finir par cette forme-là qui est assez déceptive.
C'est pas sa première grande conférence du quinquennat, là.
C'est
pas
ça, hein,
première.
Hein. Ah bah, de toute façon, tout le jeu d'Emmanuel Macron, ça a été quand même d'être plutôt contre les journalistes. Hein. D'ailleurs, c'était même finalement, on avait quasiment des cerbères face à nous parce qu'on était tous. Il était contre tous les corps intermédiaires et les journalistes font partie des corps intermédiaires. Au fond, il y avait pas de syndicalisme et on a vu où on en est arrivé avec le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y avait pas de journalistes et finalement, maintenant, ben, il s'aperçoit que les corps intermédiaires ne sont pas. Ne sont pas si mal que ça. Moi, ce que je vois là-dedans, si vous voulez, c'est surtout que oui, c'est incroyable ce grand débat. C'est incroyable, ça a duré des mois. Et là, moi, j'attends de voir ce que le magicien Macron va faire pour s'en sortir, pour tout vous dire. Parce que, enfin, je ne veux pas préjuger quoi que ce soit, mais si vous voulez, il faut quand même que ça accouche de quelque chose. Et là, on ne voit pas de quoi ça peut accoucher, à part de quelque chose de déceptif, en fait. Là, on est dans quelque chose, on attend tellement de ce grand débat que je vois pas. Et si vous voulez, alors pardonnez-moi de faire de la psychanalyse de bazar, mais si vous voulez, cet incendie énorme de Notre-Dame qui est arrivé au moment où il devait parler, si vous voulez, c'était comme une espèce d'apocalypse qui venait couronner ce grand débat dont on ne sait pas comment accoucher. Là, il devait parler, il n'a pas parlé, il a été parfait, d'ailleurs, il avait tout à fait raison, il ne pouvait pas parler. Il est venu parler le lendemain pour nous dire qu'il n'allait pas parler encore une seconde fois. Puis là, maintenant, on attend qu'il parle avec les journalistes. C'est comme un cauchemar, en fait.
Oui, mais je pense que, de toute manière, il ne pouvait pas parler cette semaine après l'incendie de Notre-Dame, c'était
impossible.
Non, mais
d'accord, mais... Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va parler?
Il faut aussi se méfier de nous-mêmes, nous autres journalistes, puisqu'on est tous journalistes autour de cette table. Si vous regardez bien les sondages qui sont sortis sur les mesures qui ont fuité, ce ne sont pas des mesures qui sont mal accueillies. C'est-à-dire que si on va dans le détail, moi je suis personnellement, hein, mais bon, je suis contre la suppression de l'ENA, je suis contre la réduction du nombre de parlementaires ou l'introduction du référendum d'initiative citoyenne au niveau local, mais autant de mesures, plus la réindexation, alors ça des retraites, ça c'est autre chose, mais qui est très très bien accueillie. Ces mesures-là, pour la plupart d'entre elles, me semble-t-il, dans les sondages,
oui, mais c'est pas digne du grand débat, ça. C'est pas digne du grand débat. C'est un catalogue de quelques mesurettes.
C'est tout ce que c'est. C'est ça qui est compliqué pour lui. Là, j'ai sous les yeux. On n'est pas sur des réformes anodines.
Non, non, non.
On n'est pas sur du saupoudrage.
Non, l'ENA, c'est
du concret.
Mais
là où ça manque, je trouve, c'est le projet. Alors, le projet, peut-être que si celui se met en scène et qu'il parle, peut-être que la perspective, on l'aura.
Parce que moi, ce qui me projet de Macron, c'est Macron.
Mais c'est ça le problème. On est d'accord. Vous avez tout à fait raison.
Qu'il est l'incarnation de lui-même. D'un projet, d'une vision, d'un...
Mais on aurait pu s'attendre, après un grand débat comme ça, à ce qu'il y ait un projet Macron, de caractère nouvelle société de Chabandel Mas en 69, qui était une véritable révolution qu'il n'a pas pu mettre en œuvre. Et on sait bien pourquoi, parce que...
C'est peut-être un Giscard, il serait un Giscard en plus spectaculaire.
Voilà.
C'était à ça qu'il était comparé un petit peu.
Voilà. Même pendant pour le moment, il n'y a même pas de réforme de l'ampleur de ce qui est passé sous Giscard, au fond.
Restez avec nous, on refait le monde de la suite dans un instant.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et face au micro de On refait le monde en ce vendredi soir, Isabelle Saporta, Yves Tréhard, Olivier Ravanello et Antonin André. Donc Emmanuel Macron en conférence de presse 18h jeudi prochain pour ses annonces concernant la fin du grand débat national. Et puis les Gilets jaunes de retour dans les rues. Demain, c'est le 23e samedi de mobilisation. On annonce de la casse. 60 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays. Et Paris en particulier, sur les Champs-Élysées, il n'y aura pas de manifestation. Et c'est interdit aussi d'aller défiler ou manifester dans le secteur de Notre-Dame.
Et ça, c'est dingue.
Après ce qui s'est passé.
Mais ça, c'est dingue, parce que ça, c'est vraiment... Là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a toute cette polémique autour des dons faits pour Notre-Dame. Effectivement, il y a toute une polémique qui met en regard, oui, ce que vous donnez à Notre-Dame, vous ne nous le donnez pas à nous, alors que ce sont, pour moi, deux choses tout à fait différentes. Hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et effectivement, ils ont la trouille qu'on vienne cramer Notre-Dame. Et ça, je trouve que vraiment, on est au bout du bout. C'est-à-dire ne pas comprendre, au fond, avec tout ce qu'on a connu ces derniers mois, que là, Notre-Dame, c'est pas juste un bâtiment. C'est pas juste on a cramé une cathédrale. C'est juste un emblème national.
Ils ont cramé l'Arc de Triomphe.
Oui, je suis d'accord, hein. Mais justement, mais c'est quoi de tout cramer? Ça veut dire quoi? Moi, c'est ça que je trouve hyper gênant.
C'est ça le fond du problème, c'est qu'en fait... Moi, j'ai vraiment beaucoup suivi cette crise des Gilets jaunes par mes fonctions, donc samedi après samedi. Ce mouvement a profondément changé de nature. Les Gilets jaunes sur les ronds-points ont disparu, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, si je suis un peu grossier, ce sont des ultra-jaunes, comme les appellent les policiers eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui flirtent avec les Black Blocs et qui finalement n'ont plus tellement de revendications concrètes. Leur but, c'est l'insurrection, c'est dégager Macron, c'est dégager le système. Donc ces gens-là ne seront absolument pas calmés par quelques mesures que ce soit annoncées par Emmanuel Macron. C'est là où la situation est inquiétante, parce que rien ne peut les arrêter en réalité, en dehors de la force. Donc on va avoir des ultra-jaunes avec des Black Blocs qui, eux, ont vu dans ce mouvement une opportunité d'essayer d'aboutir à leur rêve qui est la révolution, quoi, en gros. Et donc ce sont des gens qui sont prêts à tout, qui sont organisés, qui sont ultra-violents. Alors moi, ça m'inquiète un peu pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que le ministre de l'Intérieur n'est pas très rassurant.
C'est-à-dire non, ça, je suis entièrement d'accord.
Il fait quand même des déclarations alarmistes vendredi après vendredi. Je ne sais pas si vous imaginez une seconde une telle situation avec Valls ou Sarkozy au ministère de l'Intérieur.
Bien sûr, non.
C'est-à-dire que là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas rassurant pour les Français. La deuxième chose, c'est que les policiers sont à bout, qu'ils sont fatigués, sont mal aimés. Et donc, évidemment, que ce qui est effrayant, c'est le risque que demain,
ça dérape
et qu'il y ait un mort. Côté gilet jaune, parce que les policiers, face à des gens ultra-violents, n'auront peut-être pas d'autre choix pour défendre cette fois leur propre vie, et pas seulement des biens matériels, que de tirer. Et ça, c'est assez inquiétant.
Mais je crois qu'il y a au-delà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Antoine vient de dire, mais au-delà de ça, je pense que, vous savez, on est dans un monde qui change, et je pense que les manifestations de la colère sont en train de changer aussi. Les méthodes d'expression de cette colère-là sont en train de changer. Et je me demande si on n'est pas dans une société où va s'installer une espèce de rituel de la colère des peuples. Alors, c'est pas le peuple, hein, les Gilets jaunes, c'est une poignée, c'est vraiment des minoritaires.
Il y en a toujours eu, des jacqueries. Hein.
Tous les samedis, maintenant ça va être le cas, jusqu'à la fin du quinquennat, et peut-être dans le quinquennat suivant, qui, tels les maires de la Belle de Mai, en Argentine, vous vous souvenez, à Buenos Aires, pendant la dictature, venaient tous les soirs défiler pour demander la libération ou qu'on retrouve leurs enfants. Et bien là, ça va être, à mon avis, c'est un peu pareil. On a déjà vu avec Nuit Debout ce que ça donnait un petit peu. On a nuit avec Occupy Wall Street. Il y a des nouvelles formes de manifestations qui sont violentes, qui peuvent être très violentes. Et moi, je ne crois pas du tout que cette colère des gilets jaunes, qui est plutôt de la colère des ultra-jaunes, plutôt, à mon avis, on va la retrouver de samedi en samedi maintenant. Ça ne va pas s'arrêter.
Oui, mais alors, je m'excuse, mais là, je suis entièrement d'accord avec Antonin, Audrey. C'est-à-dire, là, ça veut dire quoi? Ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le ministre de l'Intérieur? Non, mais je suis désolée, mais là, je m'excuse d'être un peu ferme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le ministre de l'Intérieur.
À ce moment-là,
effectivement,
vous acceptez l'article 3.
Ce soit normal, que ce soit le bordel tous les samedis, si vous voulez.
Vous acceptez l'article 3 de la réforme qui vient sur la loi anti-casseurs, qui vous permet, sur un plan administratif et préfectoral, d'aller chercher.
Non, alors je suis entièrement. Je m'excuse, mais enfin, si vous voulez, vous aviez l'interview de Castaner.
Vous n'allez pas vous excuser,
où il expliquait qu'on savait qui c'était, où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Ce sont tous des gens dont on sait qu'ils ont déjà cassé. Je ne vois pas en quoi cette loi nous aiderait en quoi que ce soit. Non, je suis désolée, vous savez très bien que ça, c'est le bal des faux culs. C'est juste
politiquement, soit vous demandez à un juge.
Non, c'est faux.
Soit
vous savez que c'est faux. C'est juste que politiquement, ils n'ont pas envie de le faire.
Non,
pourquoi
non, non.
Comment j'en sais
non.
rien. Mais
soit
politiquement, ils n'ont pas envie
juge,
de le faire.
Soit vous demandez à un juge de le faire et le juge, il a un pouvoir discrétionnaire. Soit c'est le pouvoir administratif et au terme de la loi, il va chercher chez eux et il les met à l'abri le temps de la manifestation, les gens qui veulent aller manifester et qui sont en plus récidivistes. C'est tout. Cette loi, elle a été critiquée par la droite, par la gauche, dans certains de ses articles, notamment l'article 3.
Parce que même les policiers vous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on leur...
Mais
bien sûr que non.
Olivier Ravanello, vous craignez le pire, vous, pour demain?
Je rejoins Yves. Et par ailleurs, de mon point de vue, ça n'est plus qu'un problème de sécurité publique. Il faut accepter de dénier une dimension politique à ce qui se passe aujourd'hui, samedi après samedi, parce que la seule dimension politique, et je suis d'accord avec Antonin, c'est de casser le système, c'est de casser la démocratie, et donc on ne le cautionne pas, et on ne le cautionnera pas, et on peut aller même au bout de cette logique et s'interroger en tant que journaliste. Vous avez toujours eu, sur toutes les manifestations, une couverture des manifestations avec le message politique qui était porté par ces manifestations, notamment au moment du 1er mai, qui donnait lieu à des directs, à des lives pendant 3-4 heures, et où on entendait les revendications des gens qui manifestaient pacifiquement. Et puis vous aviez systématiquement, et de manière comme tous les samedis aujourd'hui, très organisé et très ritualisé, une heure, deux heures de baston. Mais qu'on traitait dans les médias comme de la baston. Pas comme un phénomène politique qui interpelle samedi après samedi le président de la République. Et peut-être faudrait-il que nous revenions à un traitement médiatique qui soit celui-ci.
Mais je trouve que vous êtes même trop gentil avec nous.
Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, le samedi, à du fait divers. Mais simplement à du fait divers.
Mais je trouve que vous êtes trop gentil.
Ne peut pas occuper.
Pardonnez-moi, mais je trouve que vous êtes trop gentil. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert, enfin pas ici, hein, mais dans certaines radios et dans certaines chaînes en continu, on a ouvert les robinets à un discours haineux.
Mais à un moment donné, il y avait un discours politique.
Excusez-moi, c'est pas vrai, ça a changé.
Il y avait un discours politique au début.
Sans contrepartie, on a invité sur des plateaux des gens qui avaient un discours complotiste, sans contrepartie, sans que personne ne les empêche de déverser
pour ma paroisse. Il me semble que de toute façon,
la même chose, la mission des journalistes. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut.
Moi, ce dont je m'alarmerais aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, les journalistes qui couvrent ces manifestations, qui sont parfois des jeunes, aujourd'hui, le font au péril de leur propre sécurité. Et je trouve très inquiétant que des journalistes ne puissent plus aller couvrir de l'information en France aujourd'hui sans prendre le risque de leur intégrité physique. Et je trouve ça beaucoup plus alarmant que les débats sur la façon de couvrir tel ou tel événement. Et. Par ailleurs, j'ajouterais que les journalistes sont peut-être pas exemplaires. Je suis, moi, stupéfait de l'attitude de certains politiques qui vont de Mélenchon à Dupont-Aignan, qui soufflent sur les braises et éhontément. Et ces gens-là prétendent diriger le pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des hommes d'État, on est face à des gens qui font de la récup politique absolument dégueulasse et de la pire démagogie.
Et ça leur a pas porté chance, hein. Vous remarquerez, ils s'effondrent dans les sondages.
Restez avec nous, on prolonge le débat, on refait le monde jusqu'à 20h. À tout de suite.
Les Français n'ont pas été dupes.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
C'est vrai qu'on en vient ce soir avec Isabelle Saporta, Yves Tréhin, Olivier Ravanello et Antonin André à Notre-Dame, donc, et à tous ces hommages et ces débats et ces polémiques que vous souleviez tout à l'heure, Isabelle. Emmanuel Macron appelait à l'unité nationale par rapport à Notre-Dame. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a cette unité? Elle est au rendez-vous?
Il n'y a pas d'unité. Ça durait quoi? Ça durait 24 heures, hein, on peut se dire. Et à partir du moment où effectivement, on commençait à affluer les dons des grosses fortunes de France, et que n'aurait-on pas dit s'il n'avait rien donné, parce que c'est ça qui est hallucinant, hein, a commencé la polémique. Et je vois effectivement toute une partie des hommes politiques, d'ailleurs dont parlait Antonin André tout à l'heure, qui commencent à surfer là-dessus en disant « mais c'est dégueulasse, salaud de riche, au fond, ils sont tous dans l'évasion fiscale, il ferait mieux de payer leurs impôts ». Et moi, je trouve que là, il faut raison garder. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un moment, bien sûr, en France, il faut lutter contre l'évasion fiscale, bien sûr, toute une partie de ces grosses boîtes se spécialise dans l'optimisation fiscale. C'est pas bien, il faut travailler là-dessus, j'en conviens. Mais là, on est en train de parler de reconstruire Notre-Dame, y mettre de l'argent dessus. Vous savez ce que c'était le budget du patrimoine l'année dernière en France? C'était 328 millions d'euros. Okay, là, il y a 1 milliard qui est tombé en 48 heures. Eh bien, écoutez, réjouissons-nous. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait autant qui partent sur toutes les petites églises de France, hein, sur tout notre patrimoine en péril. Là, on est en train d'agiter ce pauvre Stéphane Bern qui fait ce qu'il peut avec son loto du patrimoine.
D'abord, donc
quasiment rien ne revient. Non, enfin, je veux dire, il le fait gratuitement, il le fait avec un certain panache.
Mais je suis pas d'accord avec vous.
Attendez, contribuer juste là-dessus.
Content, c'est autant d'impôts au moins.
Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez qu'on mette cet argent effectivement sur le reste du patrimoine français, c'est ce qui fait aussi notre pays.
Et, mais écoutez, et voilà. Écoutez, on entretient une polémique qui n'existe pas. Je suis désolé, l'histoire des riches qui ont donné. C'est pas, à part la France insoumise, sincèrement, j'ai pas beaucoup entendu de responsables politiques qui sortent de ces gonds. Oui, mais enfin, la France insoumise, d'ailleurs, au passage, qui ne fait que 8%.
Tout le monde se féliciterait du beau temps, ils expliqueraient que c'est un méfait.
J'ai pas entendu beaucoup de propos d'irriments. Après, il y a une polémique qui me paraît tout à fait normale, même si moi j'ai ma propre opinion là-dessus, savoir s'il faut reconstruire à l'identique ou pas.
Ah mais non, ça c'est vraiment un problème.
Alors vous avez la querelle des anciens et des modernes, non, c'est plutôt assez drôle. Et d'ailleurs, ça fait avancer le public, pourquoi pas. Après, l'union nationale, ou l'unité nationale, je ne sais pas quel est le mot qui a été employé par le président de la République, elle me paraît là quand même. Elle a existé, au moment de l'incendie, je ne vois pas qu'elle éclate aujourd'hui, qu'elle explose. Elle va peut-être exploser l'année prochaine, la semaine prochaine, avec le plan du président de la République. Ça, c'est sûr. Mais je crois que...
Sincèrement, pendant
plusieurs jours, j'ai pas vu que la France se déchirait sur notre...
Je vais faire l'avocat du diable, excusez-moi, mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y aurait unité nationale à l'occasion de l'incendie de Notre-Dame. Enfin, je veux dire... c'est pas le Bataclan. Moi, non, j'ai vu le président de la République intervenir dans son intervention très solennelle. Et je me suis dit, putain, mais c'est son Bataclan. Mais sauf que là, c'est pas un attentat, c'est un accident, il n'y a pas de mort.
Oui, parce qu'important, c'est les gens.
Enfin, je veux dire, non, mais pardonnez-moi. Antoine, pardonnez-moi, c'est quand même hallucinant.
Vous avez vu que les gens étaient émus.
Oui, non, mais d'accord, mais les gens sont émus. Ils sont
et
émus.
Là, on a vu.
Les gens sont émus quand je sais pas, moi, quand la France sportive est émue quand on gagne la Coupe du Monde.
Mais, bon, oui. Mais moi, je pense mais, que,
si vous voulez, cette idée de trêve, me paraît folle, et je vais vous dire même, je trouve que, d'une certaine façon, Emmanuel Macron, en fait, il devait faire ses annonces ce soir-là. Notre-Dame survient, il est bloqué. Ce qu'il déteste, Emmanuel Macron, il déteste avoir une contrainte qui l'oblige à revoir son agenda. Mais comme il est intelligent, il utilise cet événement, il le récupère, il l'amplifie, il surfe dessus, il se met au centre, parce qu'il y a tout à gagner. C'est que du positif,
guerre,
effectivement. Il
n'y
a pas de mort. Oui, mais c'est aussi de la tactique politique. Donc, que les autres le renvoient dans ses cordes, ça me paraît normal. Je ne vois pas ce que l'unité nationale vient faire dans cette histoire.
Sarkozy, Hollande l'aurait fait. Et l'unité nationale, c'est les Français qui l'ont voulu. Ce n'est pas lui, d'ailleurs.
Bien sûr.
Olivier Ravanel.
Je ne décrète pas,
d'ailleurs.
Moi, je pense exactement la même chose qu'Antonin, donc ça va nous donner 10 minutes à combler, parce que je vais rien rajouter. Voilà, je suis exactement sur la même ligne qu'Antonin. Je vois pas pourquoi il faudrait parler d'unité nationale. De mon point de vue, l'unité nationale, elle s'impose sur des moments extrêmement graves quand la nation est en danger. Pour le reste du temps, on a le droit de pas être d'accord sur à peu près tous les sujets.
Oui, mais
et
vous
voilà,
voyez
c'est
bien
comme
ça. Ce qui s'est
et
passé
c'est pas dramatique.
Ça brûlait,
et
fait,
néanmoins, je trouve
qu'on
que cette politique
sur
est démagogique. Mais d'imaginer, et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je crois pas qu'elle soit marginale. Elle appuie à nouveau sur quelque chose bien qui sûr. S'est installé depuis 3 à 4 ans, alimenté par la France insoumise. Mais on peut pas considérer qu'un parti qui a fait 17% à la présidentielle soit marginal, qui est la détestation des riches.
Oui,
et ben voilà, ça vient encore alimenter
oui,
ça. Mais ça fait parler, mais ça fait réagir. Donc je ne crois pas que ça soit marginal.
Oui, je trouve
ça absurde, mais c'est pas marginal.
Moi, je répondrai en deux temps. D'abord, l'unité nationale, il peut la demander. N'importe quel homme politique l'aurait demandé, parce qu'il fait de la politique. Même dans les moments les plus tragiques, même le président, le général de Gaulle, dans les moments les plus tragiques, faisait de la politique, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'unité nationale s'est réalisée sans aucun appel
bien
de
sûr.
La part des hommes et des femmes politiques. C'est les Français, de toute confession, de toute provenance, parisien ou pas, et même à l'international, on a vu que ça suscitait un émoi. Ça, c'est la première des choses.
C'est une stupeur nationale.
Stupeur nationale. Deuxièmement, l'histoire des dons, sincèrement... Je crois que si on regarde bien le niveau des dons qui a été apporté, ça montre que ce débat-là ne l'a pas abîmé. L'élan de solidarité n'a pas été abîmé par la polémique sur les riches qui donnent. Il y a des riches qui donnent pour des vieilles pierres et qui donnent pas pour la misère humaine.
Non, mais moi,
j'ai pas l'impression, si vous voulez, quand on regarde le niveau des dons auquel on est arrivé en si peu de temps, que ça a refroidi les Français, parce que les Français y ont participé.
Si vous me permettez, ce qui je m'excuse de faire de la psychanalyse de bas étage, mais je vais le faire quand même. Je crois que ce qui s'est joué quand on vous dit, Antonin. Quand vous dites, Antonin André, qu'il n'y a pas d'unité nationale ou qu'il n'y a pas à en avoir, ni de trêve nationale, c'est qu'en fait, ce qui s'est joué, c'est qu'on a eu l'impression que la France partait en fumée, en fait. Qu'est-ce qui fait
oh,
mais je m'excuse, mais si.
Ah,
si mais je suis désolée. Oh, je suis désolée.
Ça, c'est Marine Le Pen qui l'a dit.
Heureusement que la France s'est réduite pas au toit de Notre-Dame, parce que sinon, on serait quand même mal barré.
Je vous dis, c'est si les gens avaient la gorge nouée, s'ils n'arrivaient pas à parler, c'est qu'ils ont vu dans cette symbolique, au fond, le président devait parler. Ça fait des mois qu'on a le mouvement des gilets jaunes. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. On a. Voilà. Et c'est cette symbolique-là.
Le toit de Notre-Dame.
Mais non, c'est pas le toit de Notre-Dame.
Non,
mais oui, enfin, je pense que là où il a été bon et qu'il a bien fait de parler, c'est qu'au fond, il y avait une espèce de spirale dépressive qui se met en place.
Pour autant, le discours, c'est la France qui part en fumée, c'est une parabole, je dirais, qui a été entretenue par l'extrême droite. Alors là, pour le coup, c'est l'extrême droite qui a entretenu
mais peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre dans les quartiers populaires.
Il n'y a pas d'unité même éditoriale.
Ils ne sont pas d'accord. On refait le monde, la suite et la fin, c'est juste après ceci. Restez avec nous.
RTL Soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Olivier Ravanello ce soir, Antonin André, Yves Tréhard, Isabelle Saporta. On va parler d'argent car en France, il y a 2,8 millions de chômeurs de longue durée de plus de 50 ans. C'est un nombre qui a été multiplié par 5 en 10 ans. Et pour remédier à cette situation, nous avons le MEDEF qui a une idée.
Ah ouais, génial.
Proposer aux chômeurs de plus de 55 ans.
Le pyromane.
Laissez-moi expliquer. Le MEDEF a une idée, proposer aux chômeurs de plus de 55 ans un poste avec un salaire inférieur à avant. En fait, la ristourne serait supportée par l'assurance chômage. La ministre du Travail n'écarte pas l'idée. Salaire au rabais ou pas?
Ah oui, non mais attendez, si je peux me permettre, on les reconnaît, ils osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Moi j'ai pensé immédiatement à ça. C'est-à-dire que je trouve ça mais ahurissant.
Moi aussi, ahurissant.
Il y a quand même eu, cette année, ils touchent double jackpot les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le CICE qui est transformé en allègement d'impôts, plus l'allègement d'impôts sur les sociétés, ça fait 40 milliards d'euros. La fin de l'ISF pour permettre d'investir justement dans les entreprises, sans compter les ordonnances travail avec le plafonnement des indemnités prud'homales et la possibilité quand même d'avoir beaucoup plus de souplesse dans la gestion des effectifs. Et maintenant, ils nous demandent de faire des salaires au rabais, alors que le chômage n'a pas du tout baissé, pour avoir en plus encore, et que le gouvernement trouve ça une piste intéressante. Alors franchement,
je comprends plus rien. Je
demande la lumière d'Yves Tréhard, qui est un sage, qui est un libéral et qui va nous expliquer le sens de cette
logique. Ah non, c'était hallucinant. Non, mais en plus, écoutez, c'est un truc de pyromane, quoi. C'est-à-dire dans le contexte actuel, sortir ça, il voudrait mettre le feu. Il ferait pas autrement. Déjà, il a humilié Delevoye en lui disant, mais vas-y, fais donc cette espèce
MEDEF,
de commission. Enfin, c'est pas le gouvernement tout seul qui a décidé d'humilier Delevoye comme ils l'ont humilié en lui disant fais donc cette commission pour nous montrer à quel point on reculera pas l'âge de la retraite pour bien maintenant nous expliquer qu'en fait on peut pas faire autrement. Dans la foulée, il lance cette bombe sur les seniors en l'expliquant en plus de façon totalement dépréciative, c'est-à-dire en disant oui mais c'est normal, ils sont un peu fatigués, ils sont moins motivés. En fait, ils méritent d'être moins payés quand même tous ces vieux. C'est hallucinant, je veux dire vraiment. Voilà, ouais, expliquez-nous, Yves Tréhard.
Non, mais j'explique. J'ai pas
à quel point c'est génial.
Non mais
c'est quoi la logique
elle est...
Je vais essayer d'être logique.
Ouais. Premièrement, il faut dire aux Français, aux téléspectateurs, aux auditeurs, que le taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans est très faible en France par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays européens. Il est de 5 à 6 points de moins.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi? Parce que, pour une raison principale, c'est que l'emploi coûte cher en France par rapport à d'autres pays. Mais il coûte cher quel que soit l'âge. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce qu'on a deux problèmes. On va reparler de l'omelette, là, comme dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que les jeunes, il y a un chômage qui est fort.
Bien sûr.
Les seniors, il y a un chômage qui est fort. Qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé pour les jeunes un SMIC jeune. On a imaginé pour les jeunes des circonstances d'entrée dans l'emploi qui étaient, moins favorables que pour les gens un peu plus âgés. Moi, j'y étais favorable. J'y étais favorable parce que je trouve ça terrible de voir des jeunes au chômage et parce que ça atteint le moral aussi d'une nation. Je suis assez d'accord avec Antonin en disant de toute manière ça changera rien parce que si les entreprises ne veulent plus des anciens, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez performants, qu'ils coûtent trop cher, quoi qu'il arrive. Alors, mais je trouve aussi que ça atteint le moral d'une nation. Alors, pourquoi pas essayer de voir ce qu'on peut faire en termes de charges, mais pas au niveau des salaires, en termes de charges vis-à-vis des employeurs, pour faire en sorte que les charges des personnes les plus âgées ou les moins jeunes soient moins fortes et moins importantes pour les entreprises. Mais moi je trouve que plus on a des solutions comme ça, plus on va faire une France à trous, avec des régimes spéciaux pour les moins de 25 ans, les plus de 55 ans, et pourquoi pas les femmes qui sont appelées à avoir des enfants. C'est déjà le cas d'ailleurs, parce qu'elles sont
moins payées. Au premier enfant, on perd du salaire.
C'est une espèce d'unité qui pourrait exploser.
D'accord
avec
ça ou
pas, Olivier?
Il faut revenir, je crois, à la base du rapport dans l'entreprise. L'entreprise n'achète pas les gens,
bien sûr,
en fonction de leur âge, de leur sexe. On n'achète pas les gens parce qu'ils ont 30 ans ou parce qu'ils en ont 50 ou 60. On les rétribue pour un travail. Que ce travail soit fait par quelqu'un qui est 35, 40, 55 ou 60 ans, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le job soit fait et qu'il soit bien fait.
Et pardonnez-moi, mais moi, je veux dire, ce truc-là de dire au fond, les jeunes ne sont jamais ni assez diplômés, ni ont assez d'expérience avant de rentrer dans le marché du travail, et les seniors coûtent trop cher. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment où on peut essayer de penser une espèce de partenariat, justement, entre ces seniors et les jeunes.
Mais Hollande a essayé de le faire, ça n'a pas marché.
Les entreprises, encore une fois, comme je l'ai égrené, ont eu quand même un certain nombre de
cadeaux
ces dernières années. Et c'est toujours aux salariés, aux autres de faire l'effort.
Bien sûr,
mais c'est quand même, c'est totalement inaudible aujourd'hui, ce discours.
On a fait le monde en ce vendredi soir.
Au passage, d'ailleurs, le chômage a quand même reculé en France, puisque on est aujourd'hui autour de 8.
Et pour fêter ça, on va casser les vieux. Hein?
Non.
Voilà.
Yves Tréhard, Isabelle Saporta, Olivier Ravanello et Antonin André. On refait le monde en ce vendredi soir. Merci à vous. Dans un instant, c'est le football en direct, bien sûr.
Vous écoutez RTL.